Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'un des plus vieux dossiers de la brigade criminelle de Paris, l'affaire du Grelet, qui vient de livrer son épilogue. Cette histoire a commencé il y a 35 ans, en mai 1986. Une éternité pour la brigade criminelle qui, depuis, a révolutionné ses méthodes et ses moyens. À l'époque, l'ADN, comme l'ordinateur, ne sont pas encore les auxiliaires de police qu'ils sont devenus. Les enquêtes se résolvent grâce aux témoignages et aux indices récoltés, à l'intuition, souvent, des enquêteurs, sans compter la chance, indispensable élément dans toute investigation. Mais dans cette affaire du Grelet, la chance a toujours été du côté de l'assassin, qui tue une première fois, le 5 mai 1986, une jeune fille de 11 ans, Cécile. Depuis, son ombre, ses méthodes, ses pulsions ressurgit dans divers dossiers, tentatives d'agression, agression, viol, meurtre. Il aura fallu 35 ans pour connaître la vérité. Le 29 septembre dernier, le Grelet, de son vrai nom François Vérove, avoue ses crimes dans une lettre adressée à sa femme et se suicide. Mais une question demeure. Pourquoi cette si longue enquête n'a jamais débouché sur l'arrestation du tueur en série? Eh bien, nous essaierons de d'éclairer cela avec notre invitée Patricia Touranchot, journaliste, spécialiste des faits divers, aujourd'hui autrice de livres et de documentaires, scénariste également. Elle a publié début octobre sur le site d'information Les Jours un long article intitulé « 35 ans après, le Grelet est tombé ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Laissez tomber, mais jamais venu à l'esprit. Jamais. Jamais. Ma fille, elle a été là. Je peux pas la supprimer d'un trait de plume. N'est-ce pas? D'ailleurs, pour moi, elle est là, elle est partout. Je vis avec mes fantômes. Ils sont là, mes fantômes. Je vais pas oublier mes fantômes. Je suis infidèle, moi. Non, non, laissez tomber. Impossible. Si j'en avais la tentation, je pourrais pas. Je sais pas si je suis clair. Je peux pas. Ça voudrait dire quoi, d'ailleurs? J'entends des drôles d'expressions. Faire son deuil. Tourner la page. Il y a des gens qui savent faire ça.
Quand Jean-Pierre Bloch s'exprime devant la caméra du réalisateur Thierry de Lestrade en 2003, voilà 17 ans qu'il a perdu sa fille Cécile, âgée alors de 11 ans. Trois semaines après, il a quitté Paris et son 19e arrondissement pour venir vivre dans le Lot, là où il est né. Sa maison, qui lui sert de refuge, est inachevée, isolée de tout. Il vit ici avec ses fantômes et avec ses souvenirs. Une photo de Cécile avec sa grand-mère, un violon posé sur la cheminée, quelques notes de piano qu'elle aimait jouer. En 2003, déjà, 7 juges se sont relayés. Les instructions ont été fermées, puis rouvertes. Et on ne l'a pas tenu au courant des avancées de l'enquête et des liens avec d'autres dossiers sans réponse. Alors, qui est l'assassin de sa fille? En 2001, pendant une marche à Paris contre les dysfonctionnements judiciaires et institutionnels, il rencontre une psychothérapeute belge qui a suivi des stages de profiling dans un centre du FBI. Elle s'appelle Karine Utzbo. En Belgique, c'est une petite personnalité dans le monde des affaires criminelles, car avant même l'arrestation de Marc Dutroux, elle avait décrit avec précision dans un journal le profil du criminel. Touchée par l'histoire de Jean-Pierre Bloch, elle propose de reprendre l'affaire. Elle ouvre un site web, rencontre les différents témoins et revient sur le lieu des crimes. Cécile est morte le 5 mai 1986, un lundi matin. Comme chaque jour de la semaine, à 8h45, la jeune fille quitte l'appartement familial seule pour rejoindre le collège. Ses parents sont partis au travail vers 8h. Logiquement, Cécile rentre le midi pour déjeuner à la maison. Sa mère l'appelle souvent pour vérifier que tout va bien. Mais ce jour-là, le téléphone de l'appartement sonne dans le vide. Inquiète, elle contacte le collège pour savoir si Cécile est là. Non, personne ne l'a vue. D'ailleurs, elle a raté la gym et ne s'est pas présentée aux autres cours. Sa mère et son père rentrent donc chez eux. Mais Cécile n'est toujours pas là. Ils préviennent les voisins, le gardien, les amis de leur fille. Peu à peu, l'angoisse monte. Avec un collègue, le gardien décide de fouiller les sous-sols. Au troisième, dans un endroit exigu, sans porte ni lumière, les deux hommes découvrent un petit corps dissimulé sous un bout de moquette sale. Alors qu'on prévient la police, Jean-Pierre Bloch descend. À la lueur d'une lumière torche, sous le débarras, il voit la main de Cécile tendue vers le ciel. Sa fille est morte. Quand les membres de la brigade criminelle arrivent sur les lieux, comme à chaque fois, ils ne savent rien de la victime, de son histoire, de son nom. D'abord, ils font face à un corps sans vie. Ils retirent le bout de moquette qu'il a caché. Le bas du corps est dénudé. Sur le visage et à la gorge, ils constatent des marques de griffures et des bleus. Ils remarquent du sable sur le visage ainsi que sur les mains. Les légistes confirmeront plus tard que l'enfant a été violé. Sur l'abdomen, ils notent une large plaie. À proximité du corps, ils ramassent des cordelettes, mais aucun couteau. Y a-t-il des empreintes digitales ? Non, aucune. Ni sur le cartable de l'enfant, ni sur ses baskets ou sur ses habits. En revanche, les enquêteurs retrouvent du sperme. Groupe sanguin de l'individu, type A, le plus répandu. Au même moment, au troisième étage, l'inspecteur et le commissaire rencontrent les parents de la victime. Discrètement, ils jettent un regard dans l'appartement. Tout semble en ordre. Aucune trace de lutte ou de fouille. Ils demandent une photo de Cécile. Ils se passent le cliché. Eux qui viennent de la découvrir morte, ils la voient souriante, heureuse. Qui était-elle ? Quelles étaient ses habitudes ? Les parents évoquent une enfant douée, autonome et responsable. Elle n'avait pas l'habitude de faire des bêtises. Elle allait seule au collège, faisait de temps en temps des courses au magasin d'en face et apprenait la musique. Quand elle devait aller à l'orchestre ou au cours de solfège, l'un des parents l'accompagnait. « Avez-vous remarqué quelque chose de bizarre ?» demandent les policiers. Luc, le frère de Cécile, étudiant en biologie, se souvient alors d'avoir vu un homme en sortant de chez lui vers 8h20.
Quand la porte du monde charge s'ouvre, il y a un homme à l'intérieur qui a déjà appuyé sur le bouton du moins 2, car le voyant rouge est allumé. J'appuie sur celui du rez-de-chaussée. Il me dit bonjour. Je le vois de profil arrière. J'ai pu l'observer le temps de descendre. Il a entre 25 et 30 ans, a des cheveux châtains courts avec une mèche sur le front. Il doit mesurer environ 1m85, car il était plus grand que moi, qui fait 1m75. Il est de corpulence moyenne. Il porte une tenue vestimentaire décontractée. Un jean un peu délavé, une veste claire et des chaussures de sport Adidas à rayures bleues ou noires fatiguées. Il a une peau irrégulière avec des marques d'acné ou de variole. Il est un peu négligé et poussiéreux, comme un routard. Il s'exprime bien en français, sans accent.
L'enquête de voisinage confirme les propos du frère. En plus des parents qui ont pris également l'ascenseur avec l'inconnu vers 8 heures, 6 autres voisins ont vu cet homme. La dernière personne l'a même aperçu courir en sortant du monte-charge vers 9h15, l'heure probable du crime. Qui est cet homme à la peau grêlée ? Est-ce l'assassin de Cécile ? Trois jours plus tard, au 7 quai de l'horloge, ses témoins sont convoqués. On les fait venir pour établir un portrait robot de l'inconnu de l'ascenseur. Taille, grande, plus d'1m80. Cheveux, châtain clair, court, avec une mèche sur la droite. Le visage, ovale. Les yeux, marron, en amande. Lèvres, minces. Peu à peu, on sort des bandes découpées avec les différentes indications. Et alors, un visage se forme. Mais il y a un chaînon manquant à ce premier essai, la peau de l'individu. Selon les différents témoignages, l'inconnu du 116 rue Petit a le visage marqué, picoté. S'agit-il de cicatrices, d'acné passagère, des résidus d'une maladie ancienne ? Personne ne le sait. En tout cas, dès le lendemain, le porteur robot est diffusé dans la presse et dans l'ensemble des commissariats. L'affaire de Cécile fait les pleines pages des journaux pendant quelques jours, puis, comme l'assassin, elle disparaît. Dans les bureaux de la crime, n'ayant ni armes ni indices, on se focalise sur une question. S'agit-il d'un récidiviste ? Les inspecteurs épluchent les différentes affaires d'agression sexuelle d'enfants à Paris et notent les détails concordants, mode opératoire, portrait robot, heure et quartier de l'agression. Une affaire sort du lot, celle de Sarah, 8 ans. Le 7 avril 1986, un lundi matin, comme pour Cécile, en sortant de chez elle, elle prend l'ascenseur pour aller à l'école. Elle est seule. À l'intérieur, un homme est là. Le bouton du quatrième sous-sol est déjà enclenché. L'ascenseur descend, la porte s'ouvre, l'homme la pousse et la jette sur un matelas déjà disposé. Tout avait été minutieusement préparé. Alors, elle crie et il la frappe. L'individu lui attache les bras avec des cordelettes, puis étouffe ses cris en l'étranglant à l'aide d'un foulard. Il la viole, mais ne la tue pas. Sarah se souvient qu'il n'avait pas sur les joues lisses. À la suite de la mort de Cécile, on convoque la petite fille, on lui présente le portrait robot. Est-ce lui ? L'enfant confirme. Sur le lieu de l'agression, la brigade de protection des mineurs trouve trois Kleenex blancs, le matelas et des traces de sperme. Les enquêteurs tirent alors le fil, cherchent des liens entre les deux victimes. On appelle certains suspects ayant les mêmes traits, mais rien ne concorde, ni la reconnaissance par les témoins, ni le groupe sanguin. Quelques mois plus tard, le 27 octobre 1987, l'ombre de l'homme à la peau grêle est ressurgie. Un mardi, Marianne, une lycéenne, est suivie par un homme jusqu'à chez elle. Là, il se présente comme un policier, carte à l'appui. Il prétexte une enquête sur un trafic de drogue. Il entre chez elle, l'interroge, puis il sort une arme et lui demande où se trouve l'argent. Il fouille, rassemble les objets de valeur dans un sac, une platine, un magnétoscope et des disques, puis retourne dans la chambre où se trouve la jeune fille pour la violer. Durant l'acte, il l'étrangle. Avait-il des traces sur le visage ? La survivante n'en a pas le souvenir. S'agit-il du même homme ou la peau abîmée de l'assassin de Cécile n'était-elle que passagère ? Si c'est lui, pourquoi cambriole-t-il les lieux ? Comme pour Sarah ou Cécile, les policiers n'ont aucun élément auquel se rattacher. Alors, les années passent et l'enquête reste au point mort. En 1993, le troisième juge en charge de l'affaire de Cécile Bloch clôt le dossier. A-t-on tout fait pour retrouver la trace de l'assassin de sa fille ? Jean-Pierre Bloch en doute.
Il y a un juge, et à cette époque-là, des policiers... J'ose pas dire complaisant, mais je me pose la question. Qui ont fait embarquer tous les clodos de la gare du Nord et de la gare de l'Est, qui mesuraient plus de 1m80. Ils en ont mis en garde à vue pendant quelques heures, 200 ou 300. Alors que nous, on savait très bien que c'était pas un clodo. Il y a de l'agitation qui peut laisser penser que vous faites quelque chose. C'est-à-dire que travailler, ça veut pas dire s'agiter.
Quelques mois après l'assassinat de Cécile, son frère Luc, étudiant en biologie, avait demandé à rencontrer les inspecteurs pour leur parler d'une innovation surprenante dans les enquêtes judiciaires en Angleterre, l'ADN. En effet, en 1985, un généticien britannique a démontré que chaque molécule stocke une identité génétique qu'on trouve dans un cheveu, une goutte de sang ou dans une trace de sperme. L'ADN est donc le seul indice qui permet de rendre chaque individu unique. À l'inverse des catégories classiquement utilisées, comme le groupe sanguin, la couleur de peau, la taille, le poids. Là, c'est une véritable carte d'identité, au plus profond de l'identité. Les inspecteurs écoutent, mais n'arrivent pas totalement à comprendre ce que dit l'étudiant. En 1988, le père de Cécile poursuit la requête de son fils en demandant au commissaire de la brigade criminelle d'établir l'identité génétique de l'assassin de sa fille. Voilà. Mais sa requête reste lettre morte. En 1996, enfin, la recherche ADN intègre les pratiques de la police et de la justice française. Le dossier de Cécile Bloch est donc ouvert et une demande d'expertise est demandée. Le 23 juillet 1996, l'assassin de Cécile est identifié ADN masculin XY numéro 16-17-16-17-7-9-3. Les inspecteurs ne connaissent pas le nom de cet homme, mais ils peuvent maintenant confirmer leurs intuitions sur les autres dossiers d'agression sexuelle. En octobre, des analyses sont effectuées concernant Sarah, victime du tueur, en avril 86, et celle de Marianne, en 87. Et là, tout concorde. Oui, ils avaient vu juste. L'assassin est un récidiviste. Ce qu'on sait maintenant, dès 1987, c'est que sa peau n'est plus abîmée. Et il ne tue pas toujours ses victimes. Non, parfois, il viole et vole. Un an plus tard, l'ADN s'avère une nouvelle fois décisive dans ce dossier. Au début de l'année 97, en effet, on apprend que la trace génétique de l'assassin de Cécile a été retrouvée sur les lieux d'une agression 1994 à Saclay. Nouvel espoir, nouvelle piste. Cette agression s'est déroulée le 29 juin 1994 à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne. Ce jour-là, Ingrid désobéit à ses parents et s'aventure au-delà de la cité de cheminots où elle vit. À vélo, la jeune fille, âgée de 11 ans, prend le chemin qui longe la voie ferrée. Sur le trajet, une voiture blanche s'arrête. « As-tu tes papiers ?»« Non. Eh bien, je t'emmène au commissariat. » Et c'est un policier. Ingrid le pense. Il sort de la voiture, laisse le vélo sur le bas-côté, lui met les menottes et la jette sur le siège passager. La voiture recule, puis prend la route. À travers la vitre, Ingrid voit qu'elle passe à proximité de sa rue. Alors, elle supplie le chauffeur de s'arrêter, mais l'individu poursuit. Il évite le commissariat de police et sort de la ville. Puis il prend la francilienne, puis l'autoroute. Les kilomètres défilent. Ingrid ne peut rien faire. Elle est prise au piège. Quelques années plus tard, accompagnée de la psychothérapeute belge, Karine Ipso, en quête de l'assassin de Cécile, retrouve Ingrid. Ensemble, elles reprennent la route du 29 juin 1994. Dans la voiture, Ingrid se souvient d'une odeur, l'odeur de l'assassin, comme elle en témoigne dans cet extrait du documentaire intitulé « Qui a tué Cécile Bloch ?» réalisé par Thierry de Lestrade.
La voiture était propre ?
Oui, mais ça sentait un peu l'herbe.
Ça sentait quoi ?
J'aimais pas l'odeur. L'herbe.
C'était un truc à odeur qui rendait quelque part ?
Non, même pas, j'ai pas vu qu'il y avait un truc à odeur. Hein. Ça devait être son odeur.
À lui ?
Ouais.
Et toi, t'as vu personne du village ?
Non, bah là, il y avait des gens dans le bar, mais pour eux, c'était, ça faisait beau et tout. C'était normal. Donc, il a fait comme ça. Là, faut vraiment connaître.
Oui, parce qu'effectivement, ouais. Il a fait tout droit, hein, par là.
Ouais. Non, oui, il a fait tout droit, il a même pas hésité.
Donc il connaît.
Après plus de 90 km de distance, la voiture prend un sentier isolé, puis s'arrête. Quand Ingrid sort, elle ne voit que des champs et un chemin qui mène à une maison abandonnée.
Donc il est rentré par là ?
Oui. Et tout ce temps, il te portait toujours ?
Oui.
Dans les bras ?
Oui.
C'était ici, dans cet endroit-là ?
Donc il m'a attaché avec les menottes sur le radiateur.
Comment était-il ? Qu'est-ce qu'il te disait ?
Il m'a montré un magazine, une BD, une bande dessinée.
Mm-hmm.
Puis il m'a montré les pages de cette BD et il m'a demandé si j'avais déjà fait ça.
Mm-hmm.
Il m'a montré la fille, qu'est-ce qu'elle faisait et il m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Il lui faisait une fellation.
Mm-hmm. Et là, t'as dit non, je...
C'est clair, j'ai dit non, j'avais peur. D'ailleurs, je pleurais.
Mm-hmm.
Et il m'a dit que si je le faisais pas, bah, il allait me baïonner. Et pour moi, baïonner, ça voulait dire il allait me tuer. Enfin...
De la fenêtre à la vitre cassée, Ingrid aperçoit un lac. L'homme, lui, déplie un lit sur lequel il place un drap blanc. Tout au long du viol, attaché, Ingrid n'arrête pas de le questionner. « Êtes-vous marié ? N'ai pas de femme pour faire ça ?» Il hoche la tête, répond par quelques mots, puis se mure dans le silence. Il attrape alors une boîte posée à proximité dans laquelle il sort une photo qu'il fixe. Selon les souvenirs d'Ingrid, il s'agit d'une photo avec deux fillettes aux tresses blondes. Qui sont-elles ? L'homme ne répond pas. Vers 17h, l'individu la détache et la laisse seule dans la maison. Après quelques minutes, seule donc, Ingrid court. Dans sa fuite, elle tombe sur un moniteur de moto qui l'emmène à la gendarmerie. Dans sa déposition, elle décrit l'individu. Homme, type européen, plus ou moins 30 ans, 1m75, cheveux courts, bruns, blouson noir. Quand les gendarmes arrivent sur les lieux, l'individu n'est pas revenu. À l'étage, les enquêteurs trouvent le drap blanc, les BD, les photos et deux papiers hygiéniques avec des traces de sperme. Quelques semaines plus tard, dans la région, on arrête un homme qui s'apprêtait à faire monter deux jeunes filles dans sa voiture. Les traits physiques correspondent. Son véhicule est blanc. Et chez lui, on trouve même des menottes en métal. Alors, est-ce lui ? Devant les gendarmes, il avoue. Sauf que le suspect est bavard, un peu trop. Ses déclarations ne correspondent pas toujours aux souvenirs d'Ingrid. Alors on la convoque et on lui présente divers portraits robots, dont celui du principal suspect. Et là, Ingrid pointe un autre visage, oui, le numéro 6, celui qu'on a dessiné en 1987 après l'agression sexuelle de la jeune Marianne. Par précaution, on effectue un test ADN. Il est négatif, le grêlé court toujours. Décembre 2000, 14 ans après l'assassinat et le viol de la jeune Cécile Bloch dans une cave d'un immeuble du 19e arrondissement de Paris où elle habitait avec ses parents et son frère, le 5e juge d'instruction en charge du dossier demande à tous les laboratoires de comparer systématiquement l'ADN du grêlé avec les ADN nominatifs à leur disposition. Début 2001, une info remonte. L'ADN du grêlé correspond à celui d'un drame qui s'est déroulé dans le Marais, dans un immeuble de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, en avril 1987. Encore un. Dans cet appartement vit une famille, la famille P. Elle est composée d'un couple et d'un enfant. Le père et la mère ont des horaires décalés. Madame travaille le jour, monsieur, lui, est mécanicien à Roissy, travaille la nuit et rentre se coucher vers 8h du matin. Alors, depuis la rentrée 86, ils ont une jeune fille au père, d'origine allemande, Ingmar, 20 ans. Elle emmène leur fille à l'école, puis retourne à la maison, débarrasser la table et faire le ménage. Mais en ce 29 avril 1987, quand elle rentre chez elle, Madame P. retrouve les corps sans vie de son mari et de la jeune fille au père. La crime est prévenue, l'inspecteur Alain Vasquez est présent. Des années plus tard, il raconte dans l'émission Non élucidée, produite par Far West Productions.
Nous découvrons une scène de crime totalement atypique par le fait que deux cadavres sont présents dans les lieux et manifestement ont été victimes d'une agression qu'on pourrait qualifier de sauvage.
Le corps de la jeune fille au père, Igmar, est dans la chambre de l'enfant. Un corps crucifié, ligoté de toutes parts. Guimard est en culotte. Elle est bâillonnée, pendue par les bras, montant d'un lit superposé. Sa tête tombante cache sa gorge tranchée par un couteau laissé au sol. Dans une autre pièce, c'est le corps du père, Gilles, qui est retrouvé lui aussi dans une posture étonnante, comme le raconte le commissaire André Bizel et Alain Vasquez dans l'émission Dossier criminel produite par Capa.
Il est sur le ventre, hein. Donc un peu incurvé, avec les bras repliés derrière les épaules et les jambes qui les rejoignent. Tout ça, alors, attaché avec un imbroglio de tissu, de serviette. Il a un bâillon, il a quelque chose autour du cou.
L'ensemble de ces liens ligotés dans le dos, donc, et resserrés à l'aide du tisonnier qui se trouvait là pour resserrer le lien, voilà, de façon à la manière d'un garrot. Ce qui paraît le plus probable, c'est la mort par strangulation, hein, mais on voit que il y a eu également des actes de torture, on peut appeler ça comme ça, qui ont précédé la mort.
L'enquête de voisinage permet d'en apprendre un peu plus. Le matin, la concierge de l'immeuble a entendu Guimard parler avec un homme à travers l'interphone avant qu'il n'entre dans l'immeuble. Il avait environ 25 ans, très grand, avec des mains imposantes. En effet, la victime connaissait son assassin car on ne remarque aucun signe d'infraction sur la porte. Quand les inspecteurs perquisitionnent la chambre de Von Digmar, ils découvrent deux carnets rouges où la jeune fille indiquait ses conquêtes masculines, leurs noms, leurs coordonnées et même parfois des appréciations intimes. Originaire de Bavière, Igmar est venu à Paris pour suivre des études à la Sorbonne. Entre la fac et ses tâches au sein de la famille P, elle expérimente les rencontres, assouvit tous ses désirs, multiplie les conquêtes. A-t-elle eu une relation avec le père de famille? Les enquêteurs le pensent. Avec son assassin également? Sans doute. Dans la presse, comme dans l'esprit des policiers du 36, pour l'instant, aucun lien n'est fait avec le crime de la petite Cécile.
Le double meurtre du quartier du Marais, à Paris, la brigade criminelle reprendra dès demain son enquête sur cet étrange assassinat d'un mécanicien de Roissy et d'une jeune fille au père, retrouvés tous les deux nus et étranglés.
Grâce au témoignage, les inspecteurs remontent le fil du temps. La veille, on a aperçu Igmar au square, en pleine discussion avec un jeune homme vêtu d'un blouson noir. Le ton était houleux, selon les témoins. La voisine de palier se souvient d'avoir vu un homme avec les mêmes caractéristiques entrer dans la chambre de Bonne, seul, avec les clés. Igmar est rentré plus tard, après ses cours et ses obligations au sein de la famille P. Selon ses amies étudiantes, elle semblait anxieuse, inquiète, et elle a filé dès la fin des cours. Le lendemain matin, elle était bien présente pour accompagner l'enfant à l'école. Et là, tout semblait aller pour le mieux. Pourquoi l'individu réapparaît-il? Voulait-il lui rendre les clés? Avait-il déjà prévu de la tuer? Pour retrouver cet homme, les enquêteurs épluchent les deux carnets. Ils identifient 29 noms masculins qu'ils retrouvent et interrogent. Tous sont mis hors de cause. Mais une 30e personne manque à l'appel, comme le précise l'inspecteur Vasquez dans Complément d'enquête sur France 2.
À l'époque, on était resté un petit peu sur un nom, effectivement, une personne qu'on avait identifiée, enfin qu'on n'a pas identifié puisqu'on ignore qui il est, mais qui lui répondait au nom de Loringe, hein, et au prénom de Élie. Et ce nom ne correspond à rien. C'est une identité qui n'existe pas. On a travaillé de très nombreuses années sur ce patronyme et on n'a rien trouvé.
Élie Loringe est un fantôme. Il n'est ni dans les fichiers de police, ni dans ceux de la sécurité sociale, encore moins dans l'annuaire téléphonique. Les enquêteurs contactent les caisses primaires d'assurance maladie, les préfectures. Personne ne connaît cet homme. S'agit-il de son vrai nom ? Igmar, d'origine allemande, l'a-t-elle bien orthographié? Les enquêteurs lancent alors les recherches avec des noms proches phonétiquement comme l'orange, l'oringe, l'orange de Zeringe, l'orig. Mais non, rien. Dans le carnet, une adresse était également indiquée, 13 rue Rubens, dans le 13e. Après vérification, il s'agit d'un endroit désaffecté, repère de quelques SDF. En 2001, on lit l'ADN du Marais à l'affaire du Grellet. Les inspecteurs décident alors d'interroger de nouveau les 29 suspects identifiés sur le carnet de la fille au père. Pour chacun, ils effectuent des tests ADN, tous négatifs. Pour eux, c'est sûr, le 30e homme, Élie Loringe, peut-être, et l'assassin de Cécile, qui a violé Sarah, Marianne Ingrid, ne font qu'un. Il s'agit d'un homme sans accent, aux mains épaisses. En 1986 et 1987, il est âgé de 25 ans, environ. En avril et en mai 1986, il avait une peau malade, tachée au visage. En 1987 comme en 1994, ses marques semblent avoir disparu. Les enquêteurs ont donc un nom sans doute faux, une adresse, celui d'un squat et un lieu dans l'Essonne, là où il a emmené Ingrid en 1994. Selon les enquêteurs, il est certain qu'il connaissait cette maison abandonnée pour avoir fait autant de routes. Tous les anciens locataires de cette habitation sont alors interrogés. Et à chaque fois, on leur présente la photo que les enquêteurs ont retrouvée dans la maison abandonnée, lieu de l'agression d'Ingrid. Cette photo semblait troubler l'homme lors du viol. Une femme reconnaît ses enfants. Alors, nouveaux interrogatoires, nouveaux suspects, nouveaux tests ADN. Et encore rien. Tous reviennent négatifs. Dans le même temps, une psychologue à la brigade criminelle, Frédéric Balland, se plonge dans l'affaire. Grâce à elle, le profil psychologique s'affine un peu, mais les pistes qu'elle ouvre ne débouchent que sur des impasses. Karine Isbaul, la psychothérapeute belge qui aide le père de Cécile Bloch, ouvre également de nouvelles pistes, notamment une trop vite abandonnée selon le père de la victime, celle de 7 tentatives d'agression de jeunes filles sur la même période. Aucune n'a été violée, mais la méthode est identique. Un jeune homme se faisait passer pour un policier, deux d'entre elles ont également reçu des lettres. Dans l'une d'elles, l'inconnu propose à la jeune adolescente une relation épistolaire secrète. Deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, il cacherait une lettre dans les pages de l'ouvrage Oblomov, dans le rayon littérature russe d'une librairie située à Saint-Germain. Dans une autre, il signe Élie Louringe, Vendre, Lisac. S'agit-il du grêlé? Si oui, vivait-il dans le quartier? Avait-il ses habitudes dans cette librairie? Est-ce là qu'il rencontre la jeune fille au père, Igmar, qui fait ses études à deux pas à la Sorbonne? Presque 20 ans plus tard, comment le retrouver? En 2005, le 8e juge d'instruction lance une grande opération où 135 suspects potentiels sont interrogés. Pour chacun d'eux, on effectue un prélèvement ADN. Bilan, aucun ne correspond. 6 ans plus tard, le 11 septembre 2011, Jean-Pierre Bloch meurt sans connaître l'identité de l'homme qui a assassiné sa fille le 5 mai 1986. Ses fantômes sont désormais le fardeau de son fils. Pour lui, la seule chance de trouver l'assassin de sa sœur est qu'il viole ou tue de nouveau.
Il faut qu'il recommence. Et vous allez trouver beaucoup de parents qui aimeraient laisser leur fille comme proie pour qu'il recommence.
Élie Louringe, dit le grêlé, sans doute né entre 1956 et 1962. Il est grand, mesure plus d'1m80, a les mains larges, le visage ovale, les yeux marrons. Il aime les habits sportifs ou militaires, il aime se faire passer pour un policier, cartes, menottes et armes à l'appui. Voilà, c'est tout ce qu'on sait.
Some go on, some stay behind, some never move at all. Girl in amber trap forever. Spinning down the hall. Let no part of her go unremembered. Clothes across the floor. Girl in amber, long to slumber. Shuts the bathroom door. Phone. It rings no more. The song. It's been since 1984. The phone, it rings no more. The song, it's been spinning now since 90. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, don't breathe a word and let the world turn.
Oh.
spins no more. The phone, it rings and you won't stay.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Vérove, ou l'affaire dite du Grêle, dont nous allons parler avec notre invité, Patricia Touranchot. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des faits divers, vous avez longtemps travaillé pour le journal Libération. Aujourd'hui, vous êtes autrice de livres, de documentaires, scénariste. Et vous avez publié sur le site d'information Les Jours un long article sur cette histoire du Grêle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir sur cette enquête? En quoi ce fait divers vous interpelle-t-il? Je dis ça parce que vous êtes penché sur tellement d'histoires policières que celle-là doit avoir quelque chose pour que vous y reveniez comme ça.
Non, mais celle-ci, je m'y suis penchée véritablement à partir de 2016, parce que toute ma carrière à Libération, depuis 1990, à chaque fois que j'allais à la brigade criminelle, et même j'ai fait une immersion en 99 à la CRIM, et à chaque fois, les policiers qui me parlaient, il y en a toujours un qui, quelque part, me parlait de cette mystérieuse affaire, de la petite Cécile Bloch assassinée en 86, dont on ne savait toujours pas qui c'était. Et ensuite, en 99, quand je suis au sein de la brigade criminelle, il y a un groupe qui, en grand secret, travaille sur une voiture. Ils cherchent des propriétaires de Volvo 340 blanches, immatriculées en 77 ou 91, parce que c'est le véhicule qui a été décrit par une témoin de l'affaire d'enlèvement et de viol de Ingrid, et par la petite victime elle-même. Et en fait, cette histoire, elle me taraude autant que les flics, mais j'ai jamais eu le temps à Libération vraiment de m'y atteler, parce que c'est un mastodonte, ce sont des tas de dossiers, des tas d'affaires pas forcément reliées entre eux, et donc voilà, en 2016, j'ai décidé vraiment de m'y coller, de reprendre ça de A à Z pour le site Les Jours, pour lesquels j'ai fait 12 épisodes, et puis ensuite pour toute une partie de mon livre sur le 36, donc il y a 100 pages consacrées au grêlé.
Alors je vais vous poser une question, là encore de spécialiste, elle n'est pas forcément facile, mais je pense que vous y avez réfléchi. Donc il y a des faits divers qui nous marquent plus que d'autres pour des raisons diverses et variées. On le voit par exemple avec le grêlé. Mais l'affaire Ligonnès par exemple, qui est une affaire à très grand rebondissement, hein, on est bien d'accord. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'affaire Godard. Et pourtant l'affaire Godard, on n'en parle pas, ou quasiment pas. Qu'est-ce qui fait que certains faits divers, comme ça, certaines histoires, nous accrochent plus que d'autres? Alors j'imagine qu'il y a une question de casting aussi, de personnalité, des personnes impliquées dans tout ça.
Écoutez, là franchement, j'aimerais plutôt m'en tenir au grêlé.
D'accord.
Au grêlé, on sait pourquoi ce fait divers-là, il va marquer. D'ailleurs, il est resté méconnu pendant des années. Hein. Cette affaire est restée quand même assez méconnue par rapport, justement, du pont de Ligonnès ou l'affaire Grégory ou Guy Georges. Parce que elle était compliquée à appréhender, parce que les dossiers étaient verrouillés et parce que, voilà, c'était compliqué pour un journaliste de le traiter. Mais à partir du moment où on tombe sur une affaire comme le grêlé, enfin en tout cas moi, je veux dire qu'il y a une énigme. Je la choisis aussi parce que c'est la plus grande enquête criminelle sur la durée en France. Hein, et la preuve, elle a duré 35 ans avant d'être résolue. Et aussi parce que c'était l'enquête majeure qui avait mis en échec la brigade criminelle.
Donc mais à partir de ce moment-là, voilà.
Et il y a quand même une énigme incroyable, c'est que ce type, il apparaît sur des crimes de petites filles, il apparaît comme un pédophile, il apparaît parfois, il tue, parfois il viole sans tuer, parfois il tue des adultes, hein, comme les deux adultes du Marais, la jeune fille au père et son patron. C'est un type qui disparaît pendant 7 ans des radars de la brigade criminelle, qui réapparaît en 94 sur l'enlèvement, le kidnapping d'Ingrid au moyen d'une carte de police avec des menottes, etc., qui l'emmène à 60 km de là, enfin, entre la Seine-et-Marne, l'Essonne. C'est un truc incroyable, si vous voulez. Donc, que c'est moi, c'est pour ça en tout cas que je la traite, et elle me paraît posséder en elle tous les ingrédients, si vous voulez, d'un incroyable fait divers.
Et oui, et justement, alors, vous qui avez suivi toute cette histoire, imaginez-vous cette fin, imaginez-vous d'ailleurs une fin possible à cette histoire?
Oui. Franchement, ah, j'ai fait un podcast sur l'histoire du grêlé en 8 épisodes de 22 minutes, dans lequel je terminais justement, contrairement à certains enquêteurs de la crime, qui avaient l'impression qu'il était mort ou parti à l'étranger parce que son ADN partiel qui était dans le fichier des empreintes génétiques ne matchait jamais avec quelqu'un. Donc il s'était dit, on a perdu sa trace depuis 94, donc soit il est parti à l'étranger, soit il est mort. Et il y a juste... Bon, il y a un ou deux policiers qui se disaient non, peut-être que il a pu se ranger ou peut-être qu'il a pu, je sais pas. Bon, en tout cas, moi, je faisais partie. J'étais de celles qui disaient l'histoire, elle sortira un jour. Mmh. Soit le mec se planque. Il y a Corinne Herman aussi, l'avocate de Luc Bloch, qui disait il a pu avoir un accident de la route ou n'importe quoi qui l'empêche d'agir. Voilà. Et on voit quand même des tueurs en série qui s'arrêtent pendant 10 ans et qui parfois rechutent, recommencent avec une série différente de crimes, en fait. Et donc, moi, j'étais persuadée qu'un jour, ça sortirait. Et d'ailleurs, je recevais, comme reçoivent les avocats, les juges, les policiers, je recevais beaucoup de témoignages quasiment chaque semaine sur le grêlé. Et ces témoignages-là, je les vérifiais, je recoupais, et quand je voyais que ça pouvait valoir le coup, hein, que je transmettais à la brigade criminelle. Voilà, comme des tas de gens, et les trucs remontaient à la juge, parce que cette histoire... Effectivement, je pensais, et il y a un policier qui m'avait dit, c'était Weska, dans le podcast, il me disait, peut-être que ce type-là, enfin, il ne le voyait pas mort, et il le voyait, il disait, peut-être que c'est un type rangé, un bon père de famille, gentil avec ses voisins. Mmh. Et c'était pile ça. Voilà, c'était pile ça. C'était un mec qui s'était rangé, qui s'était totalement reconverti et assis en fait sous des monceaux de respectabilité. En fait, je pense qu'il en rajoutait par rapport à son passé dans le côté gentil voisin, serviable, conseiller municipal, toujours prêt à donner un coup de main, etc. Et oui, il avait 2 enfants, il était père de famille et il a été gendarme, il est devenu policier en 1988, motocycliste après, et ce type-là, c'est ce qui explique, sa fonction, je pense, explique qu'il soit passé à travers les mailles du filet pendant 35 ans.
Oui, parce que j'allais vous demander, vous savez, quand il y a un tueur en série et qu'il tue sur une longue période, évidemment, le réflexe, c'est se dire, mais que n'ont pas fait les enquêteurs, quoi? À côté de quoi sont-ils passés? Enfin, c'est déjà un élément de réponse que vous donnez là.
Ben oui, et eux se posent beaucoup la question. Enfin, tous, si vous voulez, tous avaient à des niveaux différents, parce que les policiers avaient certains, le groupe Pasqualini et Huesca, ils avaient le dossier Cécile Bloch. Ok, après Vasquez, que vous qu'on entend dans votre émission, il s'occupait donc du double meurtre du Marais. Et là, c'est facile à dire après, et moi je jetterai la pierre à personne. Mais je m'aperçois aujourd'hui, si vous voulez, que il y a eu tellement de dossiers différents, traités soit par des groupes de la crime différents, soit par des brigades différentes, soit par, en tout cas, les juges. Il y avait je ne sais combien de juges qui instruisaient, par exemple la petite Cécile Bloch, ce n'était pas le même juge que la petite Sarah, qui, un mois avant, avait été attaquée par le même mec et laissée pour morte dans le 13e arrondissement. C'était une juge des enfants, une autre, qui s'occupait de ça. Et donc, toutes les infos, en fait, étaient complètement éparses dans ce dossier. Et à un moment donné, le grêlé, mais là, en tant que violeur de Marianne fin 87, hein, se présente effectivement avec une carte tricolore et se dit policier. Il a un holster, il a une arme, il a un talkie-walkie, il a tout l'attirail de policier. Mais les policiers, les enquêteurs, disons, qui étaient sur ce dossier, se disaient, mais c'est trop gros. Un vrai flic, est-ce qu'il va montrer sa carte de police, hein, et sa carte tricolore, etc. Vous voyez, et à l'époque, il y a beaucoup de faux policiers pédophiles qui agissent dans Paris. Parce que les enfants obéissent à un policier. Et donc, il y a pas mal de pédophiles qui ont trouvé le truc et qui se présentent comme des flics. Donc la brigade criminelle va en quelque sorte se dire bon voilà, c'est trop gros, quel vrai gendarme ou policier oserait montrer sa carte et violer juste après une gamine.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Patricia, je ne vous coupe pas, mais on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Hubert Félix Thiéphaine qui nous chante, et c'est de circonstance, la fin du roman.
Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de voix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois. Les chasseurs d'illusions sur les toits, dans le ciel, comme un ouragan, l'air prend la couleur d'un voile sanglant. En sommeil, depuis 10 000 ans, on entend gronder d'anciens volcans. Comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. Dis-moi, suis la flèche, dis-moi si tu sens la cruelle odeur des innocents. Suis la flèche, dis-moi si t'entends les sœurs fatales et leur boniment. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de croix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois là-bas au loin les jongleurs sans loi. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Patricia Tourangeau, il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on parle de votre activité. Vous vous présentez dans une auto-présentation que j'aime beaucoup sur le site Les Jours. Vous dites, je saute chose du 36, je m'habille en 36 et porte l'alias de Poulette. Filière spécialiste des cold cases. Au jour donc, je suis l'auteur des séries chroniques du 36, La Mondaine et Le Grêlé, affaire non classée. Et vous dites que vous êtes alors toujours obsédé par l'affaire Grégory et que vous êtes dans le polar ou les polars du réel, parce que vous travaillez aussi à l'écriture de scénarios pour le cinéma, pour un projet de série télé. Vous êtes l'auteur des postiches, un gang de l'année, par exemple. Voilà, donc vous êtes dans les polars du réel. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Même si on comprend ce que vous voulez nous dire, j'aimerais que vous l'expliquiez.
C'est-à-dire que j'essaye de raconter des récits vrais, véridiques, avec tous les témoins que je peux retrouver, avec les protagonistes de l'affaire, avec la procédure, et j'essaye de le raconter comme un roman non-fiction, c'est-à-dire l'écrire avec les codes de la dramaturgie ou du roman, mais ce sont des histoires réelles, donc ce sont des polars du réel, parce que toutes les histoires que je traite, ce sont des histoires policières, judiciaires.
Est-ce que ça voudrait dire que le réel a parfois, en disant parfois, ça passe bien, c'est tranquille, plus de talent que la fiction?
Bah souvent, très souvent,
allez,
très
on y va, souvent.
Pour moi, je travaille aussi effectivement sur des scénarios, mais c'est difficile. Enfin, les histoires que je choisis, enfin, je les choisis aussi parce que elles me paraissent dingues, quoi. Et donc, souvent, oui, la réalité dépasse la fiction.
Est-ce que vous pensez que le fait divers questionne la société mieux, en tout cas aussi bien que d'autres rubriques? Elle apporte des réponses.
Divers questionne mieux
aussi
la société que d'autres rubriques, c'est clair. Enfin, moi, si vous voulez, pour en revenir au grêlé, là, François Vérove, comment on peut imaginer qu'un type comme ça, pendant 35 ans, va violer des gamines, torturer des gens, les brûler aux cigarettes, les violer pendant des heures, etc. Et que ce mec-là, il est gendarme à la garde républicaine, et puis qu'il rentre tranquillement dans la police motocycliste, et puis qu'il devient délégué syndical, et puis qui se fait muter dans le sud, et puis que monsieur a une super maison du côté de Prades-le-Lez, une maison d'architecte, pas n'importe quoi, qui devient conseiller municipal. Mais ça, c'est inimaginable. Ce type-là, c'est l'archétype du serial killer à l'américaine. On n'en a pas d'autres en France, enfin de connus en tout cas, de ce style. Les autres qu'on a, ils sont plutôt... on a pas mal de pas mal de marginaux, hein, à la Guy Georges, à la Francis Hall, un peu demeuré par ailleurs. On a eu des militaires, genre l'adjudant Chanal.
Oui,
on en a eu un
sûr.
Autre. Mais si vous voulez, là, à ce point comme ça de duplicité, de vie au sein de la société, avec une espèce d'honorabilité, de respectabilité partout, et c'était ce type le grêlé, bah ça c'est inimaginable. Voilà, la réalité, elle dépasse la fiction, et c'est pour ça que j'aime les faits divers. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a beaucoup de gris dans les faits divers. Hein, les victimes ne sont pas toujours les oies blanches que décrivent certains tabloïds. Et puis, les meurtriers ne sont pas toujours non plus tout noirs. Il y a aussi du gris chez eux.
Bien, c'est une belle analyse du fait divers dans son ensemble. Après, c'est votre terrain professionnel depuis tant d'années. Ça va continuer, j'imagine, toujours passionné.
Ah mais oui, je suis pas prêt d'être à la retraite.
Super.
Il y en a des histoires.
En plus, ça tombe bien, on a besoin de vous dans cette émission. Alors, partez pas. Merci Patricia. Partez
Merci.
Pas là maintenant, mais même pas définitivement. Hein.
On
se reverra.
Reviendrai.
Au revoir. Au revoir Patricia.
Au revoir, merci.
Affaires sensibles aujourd'hui, Le Grêlé, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.